Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Nous allons écouter une émission de retransmission aujourd'hui avec la thématique de la cour de récréation. Comment est-ce qu'on souhaite qu'elle évolue et qui prend les décisions pour l'aménager? Donc on commencera par les moyennes sections, grandes sections de l'école Gabriel Péri qui ont enquêté sur une lettre mystérieuse qu'ils avaient reçue en décembre dernier. On continuera à 14h20 avec l'interview de Philippe Magnez, ancien du service de l'enseignement et qui était interviewé en 2024 par les CM2 de l'école Rosaline Franklin. On continuera à 14h37 avec les CE1 de la même école qui nous parlent de citoyenneté. Et enfin, à 14h41, le reportage des mêmes CM2 qui avaient interviewé Philippe Magnez sur la transformation de la cour de leur propre école avec le CAUE. Vous connaissez peut-être les cours Oasis. Ils en débattent. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf?
La classe de moyenne section, grande section de l'école Gabriel Péri, la classe numéro 4. Donc nous sommes aujourd'hui en visite dans les locaux de Radio Cartable.
Radio Sport.
On s'est entraîné à l'école pour aller à 1, 2, 3, courir et voler.
On s'est réchauffé, on a tiré sur nos bras, on a tourné la cheville.
On a couru, on était fatigué.
Ça m'a plu.
On a couru pour les enfants malades.
Mal et mal.
Chapeau l'artiste.
Chapeau l'artiste.
Chapeau l'artiste.
Chapeau.
L'artiste.
La sautille.
On a pris le métro 7 rose, le métro 1 jaune. On a marché pour aller au Sablon.
On a marché pour aller à la Fondation Louis Vuitton. On a mangé un gâteau, on est rentré.
On l'a récréé.
On a mis la pierre quand on est rentré chez elle, on l'a envie.
On l'a récréé, on l'a mis dans sa poche, on l'a mis dans l'eau.
On a fait des aventures dans la Fondation Louis Vuitton pour ramener la pieuvre chez elle.
La pieuvre qui voulait rentrer chez elle.
La pieuvre qui voulait rentrer chez elle.
La pieuvre qui voulait rentrer chez elle.
Le journal scientifique.
En fait, tu nous as montré un bonbon tout blanc et un bonbon avec de la couleur. Et après, il fallait deviner comment t'avais fait pour enlever la couleur du bonbon.
T'as enlevé avec une fourchette, avec un ciseau, avec des ongles, avec un bout de triangle, avec un couteau, avec une éponge et des pièces.
Bonbon, oui, t'as fait.
On a mis le bonbon dans l'eau. Après, ça a enlevé la couleur.
En fait, la couleur du bonbon, il était dans l'eau et le bonbon, il était tout blanc.
Les enfants, ils voient un gros tableau.
Le monstre, il a des pics sur la tête, des dents pointues et des oreilles géantes et des yeux rouges. Des pattes pointues.
Les enfants, ils ont peur, ils se cachent en dessous de l'étable et ils crient.
Ils voient apprivoiser un monstre.
Il faut lui donner des lettres à le monstre, comme ça, quand il se nourrit, il devient gentil.
Un gros poil sur le nez et deux yeux tout carrés. Trois dents bien devant, quatre bras très très grands. Cinq cheveux sur la tête et six oreillettes. Sept boutons au menton et huit au veston. Neuf pièces d'un côté et dix de l'autre. C'est le monstre gentil qui a peur des souris.
Radio Cartable,
la radio des écoles d'Ivry.
Nous sommes le jeudi 18 décembre.
On est dans la classe de moyenne section
et de grande section.
Les secrets de l'école.
Les secrets de l'école.
Notre classe a reçu une lettre de monsieur le décideur des cours d'école.
Il y a eu des enfants.
On va avoir un carrousel dans la cour pendant les vacances de Noël.
On a bien mérité.
On a bien travaillé et on a été sages.
Ça serait cool.
On ne sait pas comment ils vont l'installer.
On ne sait pas si c'est vrai.
On ne sait pas si c'est faux.
Parce que c'est pas encore installé.
On verra ça à la rentrée du mois de janvier.
La classe de moyenne section, grande section de l'école Gabriel Péri, la classe numéro 4.
Les 17 ans de cours d'école et carrousel.
Elle dit qu'on va avoir un carrousel dans la cour pendant les vacances de Noël.
À la rentrée du mois de janvier, on a des reflets partout dans les coins.
Pas couillé.
Regarde.
Eh ben, en fait... On n'a pas son numéro de téléphone, on a décidé de connaître l'école et on a son adresse.
On a cherché à visiter des enfants sur la carte du monde, mais on ne l'a pas trouvé.
On voulait savoir si dans la lettre, elle était vraie ou fausse.
On est à la poste.
On a posé des questions à la postière.
Et elle a dit que le timbre et l'enveloppe étaient vrais.
Est-ce que le timbre, il est vrai ou faux?
Oui, Amira, le timbre, il est vrai. C'est ce qui te permet d'envoyer la lettre à la ville des enfants. Alors, la lettre, elle est vraie.
Ça tient à filmer son enfant ici.
Mais c'est pas en France.
Est-ce que vous connaissez la ville des enfants?
Ok, oui, on la connaît. On connaît tout à la poste. On connaît exactement l'adresse de la ville des enfants.
Elle est par où, la ville des enfants?
Alors, la ville des enfants, elle est très loin et elle n'est pas en France.
Elle dit que la lettre est bien écrite.
La postière, elle ne sait pas si c'est vrai ou faux.
Est-ce que à l'intérieur de la lettre, elle est vraie ou faux?
Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bien écrit. On a le détail.
Est-ce que le décideur des cours d'école existe?
Oui, le décideur d'école existe.
Elle dit que le décideur des cours d'école existe.
On le connaît pas.
On a décidé d'écrire au président de la République parce que lui, c'est tout, tout sur le monde et la France.
On va continuer notre enquête.
Au revoir.
Secret de l'école. Les secrets de l'école.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour.
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 On est la
classe de grande section, moyenne section de l'école Gabriel Péri.
Et c'est pas de quoi l'école de Caboussin.
On va faire une enquête sur la ville des enfants.
Les visiteurs de cours d'école.
On veut savoir ce qui est vrai ou faux.
La directrice de l'école Gabriel Péri répond aux enfants.
Si elle connaît monsieur le décideur des cours d'école.
Est-ce qu'il existe?
Est-ce que je connais le décideur des cours d'école? Oui, je sais qui décide un peu des cours d'école.
Est-ce que tu le connais?
Alors, ce n'est pas qu'une personne qui décide. Il y a plusieurs personnes qui décident pour les cours d'école. Mais je le connais, oui. Je sais qui c'est pour notre école maternelle Gabriel Péri. Les personnes sont en France, à Ivry-sur-Seine. Et qui sait, alors, en tant que directrice d'école, je peux donner mon avis sur les cours d'école, mais ce sont des personnes qui travaillent à la mairie qui décident de l'aménagement des cours d'école. Qui décident si on peut mettre un carrousel, ou si on peut pas mettre de carrousel, ou si on peut mettre d'autres jeux, par exemple.
À la mairie, il nous a dit que c'était pas le marc qu'on voyait les alettes.
Mais le décideur des cours d'école, il habite à la mairie.
On servait son pain censément.
Par l'école de 6e, on a appris que le code postal 00 ville des enfants, ça n'existait pas. On a cherché sur Google et ChatGPT, mais la ville ou le pays des enfants n'existe pas.
Il y a plusieurs endroits qui pourraient être pour les enfants.
Comme Stockholm, c'est la ville où les gens sont le plus heureux.
Le village du Père Noël, en Laponie.
Au début de notre recherche, on croyait que c'était vrai, maintenant on sait que c'est faux.
La lettre est une fausse information.
Il ne faut pas toujours tout croire, il faut vérifier.
Du coup, on écrit au maire pour avoir un carrousel parce que c'est lui qui décide dans l'école. Au revoir.
Merci aux personnes qui ont aidé les élèves pendant leur enquête. Anne-Charlotte Ambrosi, coordonnatrice REP, Stéphanie Mazuet, documentaliste du Collège Vallon, et les collégiens, la postière, les CPB de l'école Maurice Thorez B, la directrice de l'école Gabriel Péri, et enfin, l'accueil de la mairie.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
pose sur l'arbre qui perd ses feuilles, et il reste de marbre. Tout à coup un écureuil se balade dans l'océan. C'est un peu
bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et on vient d'écouter une chanson de Pascal Loquin.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Classe de CM2A, école Rosalie Franklin. Aujourd'hui, nous allons faire l'interview de Monsieur Philippe Magnez. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, les quelques mots que je vais dire, c'est plus sur ma situation personnelle. C'est-à-dire que je suis papa de 4 enfants qui sont très grands maintenant. Et donc, qui, comme vous, ont été à l'école. Et moi aussi, quand j'étais plus jeune, je suis aussi allé à l'école.
Depuis quand travaillez-vous à la mairie d'Ivry ?
J'ai commencé de travailler à la mairie d'Ivry en 1992. Au départ, j'ai travaillé au service des sports et j'étais responsable d'une structure sur le quartier Pierre et Marie Curie, qui est sur le plateau. Et depuis 2001, je suis responsable du service enseignement.
Présentez-nous votre service. Quelles en sont les missions ?
Le service enseignement est composé de 8 personnes qui travaillent avec moi. Et nos missions, c'est de gérer toutes les écoles de la ville, c'est-à-dire les écoles maternelles, élémentaires ou les écoles primaires. Ça, c'est une obligation des communes. Les communes doivent gérer les écoles. Après, il y a les collèges. Vous, l'année prochaine, vous allez au collège. C'est les départements qui gèrent les collèges. Les missions du service, c'est de pouvoir créer les meilleures conditions d'accueil pour vous, les enfants, mais aussi les conditions de travail pour les enseignants, pour le personnel technique, pour les animateurs. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir accompagner toutes les activités qui se déroulent sur le temps scolaire. Quand, par exemple, vous faites une sortie pédagogique, vous prenez un quart, l'enseignante et la directrice de l'école s'adressent au service enseignement pour que nous, on puisse voir pour la réservation du quart. Voilà, c'était un petit exemple, mais il y en a plein d'autres.
Quand vous étiez jeune, vouliez-vous faire ce métier ?
À votre âge, en fait, je voulais être, ou un peu plus petit, je voulais être pompier, danseur, acrobate, voilà, j'ai voulu faire plein de choses. Après, j'ai fait plein de travail, j'ai fait des études aussi différentes, et je dirais que là, le poste que j'occupe, c'est ce qui correspond, en fait, à une suite presque logique de ce que j'ai pu faire pendant mes études ou au travers de différents travaux que j'ai pu effectuer.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, j'ai déjà un petit peu répondu juste avant. Comme j'ai travaillé comme animateur au départ, mais j'ai fait des études de technicien en bâtiment génie civil. Et puis, j'ai fait aussi des études de sociologie. Et puis après, je suis rentré donc dans la fonction publique territoriale. Et là, j'ai suivi des formations en droit, en management, pour gérer des personnes. Et tout ça, ça m'a permis d'acquérir plein de compétences. Et avec ces compétences, ça m'a permis de pouvoir postuler sur les postes que j'ai eus au niveau de la ville d'Ivry.
Quelles sont les étapes et les formations nécessaires pour devenir responsable du service scolaire ?
Alors, les étapes, c'est déjà rentrer dans la fonction publique territoriale. Ensuite, c'est passer des concours pour pouvoir acquérir à la fois des formations et des concours, des formations pour acquérir des compétences, et puis des concours, puisque dans la fonction publique, on a différents concours qui existent. En fait, le métier de responsable du service des affaires scolaires, c'est un métier où on touche à plein de choses. On va toucher au suivi de construction d'un groupe scolaire, par exemple. La construction de ce groupe scolaire-là, moi, je l'ai suivi avec d'autres collègues. Mais on travaille aussi avec les enseignants ou avec les classes. Je ne sais pas si vous avez participé, par exemple, au projet de la maison de l'architecture. Il y a peut-être des classes de votre école qui y ont participé. Donc, on travaille aussi sur un peu des aspects pédagogiques entre guillemets, pour vous accueillir et mettre en place des activités qui vous intéressent et qui vous permettent d'apprendre en fait un certain nombre de choses. C'est pour ça que le métier, c'est pas un métier comme ça, c'est pas comme être boulanger ou être garagiste. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit et qui nécessite de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc.
Alors, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ?
En fait, ce que j'aime dans mon travail, c'est pouvoir venir dans les classes et être accueilli par vous avec un sourire, par les enseignants avec un sourire, par les personnels qui travaillent, que ce soit les personnels techniques ou les animateurs, avec un sourire. Ça veut dire que, quelque part, j'ai bien fait mon travail puisque tout le monde a l'air content.
Quelle est votre mission principale ?
Alors, ma mission principale, en fait, c'est tenir compte de tout ce qui a pu se passer, qui était bien, qui n'était pas bien, pouvoir s'en servir pour pouvoir faire des choses dans le présent. Et puis, surtout, mes missions à moi, c'est de penser dans l'avenir. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je réfléchis à des groupes scolaires qui doivent être construits en 2029 ou 2030. Vous voyez, donc moi, mon rôle, c'est vraiment de penser à l'avance les choses pour voir après comment on peut les mettre en place. Parce qu'un groupe scolaire, ça ne se construit pas comme ça. S'il y a besoin d'adapter un certain nombre de choses, il faut les penser, il faut les anticiper pour que, effectivement, après, ça puisse se mettre en place le plus simplement possible.
Quelles sont les difficultés liées à votre mission ?
Alors, les difficultés liées à mes missions, ça rejoint un petit peu ce que je voulais faire quand j'étais tout petit, où je disais je voulais être acrobate. En fait, il faut avoir une grande capacité de gymnastique dans la tête. Parce qu'il faut penser à ce qui s'est passé, au présent, à l'avenir. Il faut parfois se déplacer dans une école parce qu'il y a un événement urgent et puis il y a besoin d'adapter l'organisation de mon travail qui était prévue. Donc ça, parfois, ça peut être difficile. Et à ce titre, tout à l'heure, après l'interview, on verra par rapport à ma collègue qui devait être là avec moi aujourd'hui, mais qui n'a pas pu être là parce que effectivement, il y a des urgences ailleurs et donc il faut s'organiser. Donc des fois, c'est pas simple.
Comment fonctionne une mairie ?
Est-ce que vous connaissez le nom du maire ? Philippe Bouissou. Voilà, tout à fait. Donc Philippe Bouissou, il a avec lui des conseillers municipaux et des adjoints au maire qui travaillent avec lui et qui sont ce qu'on appelle le côté politique d'une commune. Ils ont été élus par les habitants, donc ils ont établi un programme avec un certain nombre de choses qui étaient identifiées, comme quoi ils s'engageaient à mettre en œuvre tout ça pendant le mandat pour lequel ils étaient élus. Donc ça, c'est une partie de la mairie. Et après, il y a tous les services qui existent à la mairie qui sont là pour mettre en œuvre les décisions qui ont été prises par les élus.
Comment prenez-vous les décisions concernant le service enseignement ?
Alors, il y a plusieurs sortes de décisions. Il y a parfois des décisions qui ne concernent que notre service, que le fonctionnement de notre service. Et là, c'est nous qui les prenons. Parfois, il peut y avoir des décisions qui concernent notre service, mais d'autres services. Donc ça, on se met en relation avec les autres services, on travaille ensemble, et puis on prend une décision ensemble. On a aussi des décisions qui se prennent avec les directions d'école, parce que c'est des questions qui concernent l'école, et on a besoin d'échanger, de réfléchir ensemble, de faire des propositions, et de trouver la meilleure des solutions. Et on peut avoir aussi des décisions qui sont avec votre inspectrice de circonscription, qui sont aussi avec l'administration générale de la commune, mais qui sont aussi en relation avec les élus. Donc on a plein de formes de prise de décision. En tout cas, un des rôles du service enseignement, c'est de toujours apporter des éléments qui vont permettre aux élus de décider.
Pouvez-vous nous expliquer votre travail concernant le projet de la cour Oasis ?
Alors, Christelle Legard, vous l'avez déjà certainement vue dans l'école parce qu'elle vient aussi souvent dans les écoles. Elle travaille donc avec moi et elle s'occupe du suivi de tous les travaux ou tout ce qui se passe dans les écoles. Et à ce titre, c'est elle qui a suivi les travaux, ce que vous avez fait en lien avec le CAUE. Et d'ailleurs, je crois que vous avez interviewé quelqu'un du CAUE récemment. Et donc, c'est elle qui suit, avec le CAUE et après avec les services techniques, toute la réalisation du projet. Parce que le projet, on le réfléchit, après on regarde combien ça coûte, puis après il faut faire les travaux pour le réaliser. Et donc son travail, c'est de faire tout ça et de faire remonter aussi des décisions, parce que faire les travaux dans une cour d'école, ça coûte de l'argent, et donc à un moment donné, il va falloir que les élus décident s'ils veulent mettre cet argent pour faire les travaux dans la cour.
Où trouvez-vous le budget pour financer ce dont les écoles ont besoin ?
Tous les ans, on prépare le budget pour l'année suivante. Donc là, nous, par exemple, au service enseignement, depuis du mois de septembre au mois de décembre, on a préparé le budget pour l'année 2024. Et de septembre à décembre 2024, on préparera le budget pour 2025. Quand on prépare le budget, on regarde un certain nombre de besoins, on essaye de les quantifier, savoir combien ça va coûter, et ensuite on fait des propositions aux élus en leur disant, voilà, vous souhaitez faire ça, ça coûte tant. Et là, ce sont les élus donc, qui décident si c'est oui ou si c'est non. Et ensuite, nous, on a les crédits, donc l'argent qui permet de pouvoir réaliser toutes ces actions.
Avec quel service travaillez-vous ?
Alors, on a la chance d'être un service, enseignement, qui travaille avec tous les services de la ville. Tous. Il n'y a pas un service avec qui on n'est pas en relation. Dans la ville, il y a plus de 60 services. Donc, on peut être en relation avec des services techniques pour des travaux de bâtiment ou des travaux dans la cour. On peut être en relation avec les services d'état civil, parce qu'ils vont nous donner les enfants nés à Ivry, et ça va nous permettre, nous, de savoir que ces enfants, dans 3 ans, ils vont arriver dans une école. On peut travailler avec les services d'urbanisme. Les services d'urbanisme, c'est ceux qui s'occupent, par exemple, de l'aménagement du quartier, ici, avec Ivry Confluence. Et on travaille avec eux, par exemple, sur où est-ce que va être construit le prochain groupe scolaire sur le quartier. Et il y a quand même un service avec qui on travaille beaucoup plus. C'est le service qui s'occupe des personnels techniques et des animateurs qui sont dans les écoles, qui est rattaché à la même direction que nous. Donc on travaille vraiment au quotidien, on est en relation vraiment avec eux.
Êtes-vous habitué à venir dans notre école et à quelle occasion ?
Quand je viens sur une école, c'est comme aujourd'hui, pour répondre à vos questions. Des fois, c'est parce que j'ai besoin de rencontrer la directrice ou les enseignants ou le personnel technique. Et puis des fois, j'aime bien venir dans les écoles comme ça, par surprise. Je ne préviens personne. Je viens voir parce qu'il y a tellement d'écoles sur la ville que de temps en temps, moi, j'ai besoin aussi d'aller dans les écoles pour revoir un petit peu comment sont les choses. Et ça me permet après de pouvoir tout de suite visualiser quand une question m'est posée, je vois de quoi il s'agit. Alors que si je ne venais pas dans l'école, je ne verrais pas de quoi il s'agit.
Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne un conseil municipal ?
Alors, le conseil municipal réunit tous les conseillers municipaux, les adjoints au maire et le maire. Il se réunit tous les 2 mois. Et les services, donc, on prépare ce qu'on appelle des exposés des motifs, où on explique et où on aide à la prise de décision par le conseil municipal, puisque c'est lui qui va prendre la décision. Et quand le conseil municipal prend une décision, il y a ce qu'on appelle une délibération. Voilà, tout ça, ça part en préfecture, enfin après il y a des circuits administratifs, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, il y a des dossiers qui préparent les points qui doivent être abordés dans le conseil municipal, et ensuite, il y a des délibérations qui sont prises. Et les délibérations sont publiques, c'est-à-dire qu'après, elles sont affichées partout, elles sont consultables sur le site internet de la ville. Donc si vous avez de la curiosité, vous pouvez sur le site internet de la ville, vous verrez conseil municipal, vous verrez toutes les personnes qui le composent, et vous pourrez voir aussi toutes les questions qu'ils ont à traiter et quelles décisions ont été prises.
Comment ou de quelle manière travaillez-vous avec monsieur le maire Philippe Bouissou ?
Alors avec Philippe Bouissou, on a une relation de travail qui est très facile parce que déjà il est attentif, il est à l'écoute quand on lui parle Et ensuite, moi, j'ai eu la chance, comme je suis sur le service enseignement depuis 20 ans, M. Bouissou, avant d'être maire, a été adjoint au maire aux écoles. Donc, j'ai eu l'occasion, moi, depuis de très nombreuses années, de le rencontrer, de travailler avec lui sur tout un tas de questions. Aujourd'hui, il m'arrive de le rencontrer et de travailler avec lui sur des points vraiment très précis. Et c'est souvent à l'occasion de réunions qui sont organisées avec des partenaires extérieurs à la commune.
Avez-vous déjà marié un couple ?
Alors, moi personnellement, je n'ai jamais marié un couple. Ce sont mes collègues qui travaillent au service état civil qui accompagnent les conseillers municipaux qui, eux, peuvent marier un couple. Voilà, parce que nous, au niveau des autres services de la ville, on peut aller dans la salle des mariages pour la voir. Elle est très jolie d'ailleurs, hein. Si vous avez l'occasion de visiter la mairie, allez la visiter, c'est superbe. Mais voilà, c'est le service état civil où il y a des personnes du service qui assistent les conseillers municipaux quand il y a des mariages.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure ?
Je voudrais juste que la dernière idée que je vais évoquer soit en direction des collègues qui travaillent avec moi au sein du service enseignement. Si, au niveau du service, on arrive à créer tout ce qu'il y a autour de vous, c'est pas parce que moi je suis responsable ou moi je suis tout seul. J'ai aussi plein de collègues avec qui je travaille et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire les choses. Une chose qui est importante, c'est le travail d'équipe. À plusieurs, on va plus loin. Et à plusieurs, on est beaucoup plus riche parce que chacun peut avoir des idées. Et le fait de les partager, bah, ça permet de pouvoir réaliser des trucs super. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Parce que j'aime bien aussi qu'on m'invite.
De rien. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue. Et rentrons à Paris, ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadoue. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadoue.
La gadoue,
ouh la gadoue. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et pas juger dans la gadoue. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons.
Jane Birkin sur Radio Libertaire 89.4 à l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
À quoi ça sert de faire du sport ?
J'aime beaucoup faire du sport.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles ?
Débat, c'est intéressant ou pas?
X sagesse.
Nous appelons Essia, Jaïli, Abdulbasset, Ritej, Rad, Sita, Nahil et Rayana.
Nous sommes les élèves de la classe CE1A dans l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine.
Au mois de février, avec les essentiels d'un jour une actu, nous sommes demandés c'est quoi un citoyen.
Un citoyen est une personne qui vit sur un territoire et qui respecte des conditions.
Chaque pays a ses règles.
Les deux sont les stations en haut de notre affiche.
Nous faut devenir les deux conditions pour être un citoyen français.
Il y a une carte d'identité avec un drapeau français.
On comprend donc que pour être un citoyen français, il faut avoir la nationalité française.
Sur la carte d'identité, il y a aussi un drapeau de l'Union européenne, car quand on est un citoyen français, on est aussi un citoyen européen.
La deuxième illustration, c'est un gâteau d'anniversaire.
Il a la forme de la France, il est bleu, blanc et rouge, la couleur du drapeau France. Il y a des bougies qui forment un 18 dessus.
C'est à 18 ans qu'on devient nageur en France et qu'on devient un citoyen.
Avant, on s'entraîne à le devenir.
Lorsqu'on est un citoyen, on a des droits, mais aussi des devoirs.
Nous devons, par exemple, respecter des lois pour pouvoir vivre tous ensemble.
Un autre devoir qui est très important et qui est illustré sur notre affiche, c'est le devoir de voter.
Tous les citoyens doivent voter. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce qu'on appelle un devoir moral.
Reportage dans mon cartable.
Où sommes-nous dans la cour ?
Alors là, on est sous le préau. On est du coup dans un espace qui est assez sombre. Et de manière générale, on voit que la cour, elle est plutôt noire et blanc. Et le projet de cour oasis, puisqu'on est quand même là pour en parler aujourd'hui, le projet de cour oasis dans votre cour, il vient du fait qu'on a, on a besoin de transformer la cour. Et on peut se demander pourquoi. Ben, déjà, on a, ce qu'on a en face de nous, c'est, ça nous montre que c'est une cour qui n'est pas forcément pensée pour ses premiers usagers que sont les enfants, donc vous. Parce que, du coup, de manière assez classique, on a une grande surface de bitume noir, donc. De rares éléments végétaux. On voit qu'on a deux arbres qui sont pas en très bonne santé dans deux pots. On a un accès aux toilettes derrière nous. On a de rares éléments de mobilier, donc on voit qu'on a deux bancs et deux tables de pique-nique. Et de manière générale, c'est une cour qui a été réalisée comme toutes les autres cours jusqu'à aujourd'hui, en étant un peu un impensé, parce que c'est pas pensé directement pour les enfants, mais plutôt pour la surveillance des enfants, la propreté de la cour et la sécurité, puisqu'on voit que c'est tout plat, comme ça on risque pas trop de tomber.
Pouvez-vous vous présenter ?
Alors, je m'appelle Hugo Le Goff, donc je suis paysagiste concepteur. Et dans mes études et dans mon métier, je me suis spécialisé sur la gestion de l'eau dans la ville. Donc j'ai donné beaucoup d'importance à la présence de l'eau dans le paysage, que ce soit la rivière ou juste la goutte d'eau qui tombe du ciel sur le sol, et à la concertation.
Qu'est-ce qu'un paysagiste ?
Alors, un paysagiste, c'est un métier de l'aménagement. Donc, c'est quelqu'un qui fait des plans de l'espace public. Donc, l'espace privé, c'est quand vous êtes chez vous. Et l'espace public, c'est la rue, c'est-à-dire ce qui appartient à la ville. En l'occurrence, pour vous, c'est votre cour de récréation. Et donc, le paysagiste, il dessine, par exemple, donc, en milieu urbain, ça peut être des rues, des places, des... et donc il dessine des plans et ensuite il va jusqu'à la fin des travaux, il suit des travaux et son objectif c'est de rendre la ville plus agréable à vivre.
Où travaillez-vous actuellement et sur quel projet ?
Moi je travaille au CAUE du 94, donc c'est une association à l'échelle du département. Donc j'accompagne des communes dans leurs projets d'espace public à l'échelle de tout le Val-de-Marne.
Un paysagiste travaille-t-il plutôt en milieu urbain ou rural ?
Ça peut être les deux. L'espace public en ville, c'est donc comme je vous disais les rues, les places, les parcs, les jardins de la ville. Et en milieu rural, ça peut être un parc naturel régional, un parc national, ça peut être des berges d'un cours d'eau, ça peut être des sentiers de randonnée. Il peut gérer l'accueil du public dans des espaces naturels. Et il peut travailler sur la restauration écologique d'un cours d'eau, c'est-à-dire rendre ses berges plus naturelles.
Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce métier ?
Dans le métier de paysagiste, on a la difficulté que dans la ville, de manière générale, la nature, elle est quand même assez souvent reléguée à la dernière place, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prioritaire par rapport à d'autres métiers d'aménagement comme l'architecture, le bâti, ça rapporte plus d'argent à la construction qu'un espace public qui, lui, rapporte assez peu d'argent. Donc, il y a cette difficulté-là d'essayer d'être intégré au projet dès le début pour avoir un impact sur la structure globale du projet. Sinon, il y a le fait qu'en ville... Il y a beaucoup... En fait, le sol, on le voit pas comme ça, mais il est truffé de réseaux, des tuyaux sous le sol, donc des tuyaux où il y a de l'électricité, de l'eau de pluie, de l'eau usée, du gaz, des réseaux de communication télécom. Et du coup, ben, c'est difficile de retrouver un sol qui permette de planter... de la végétation, des arbres, de manière générale. Parfois, c'est des sols qui sont pollués. Parfois, ils ne permettent pas d'infiltrer l'eau comme on voudrait.
Comment devient-on paysagiste ?
J'ai fait un bac général. Ensuite, j'ai fait un BTS aménagement paysager. Donc, le BTS, c'est une formation technique sur les sciences du vivant et les aspects plus techniques de l'aménagement. Et ensuite, j'ai passé un concours en bac plus 2 pour une école d'architecture et de paysage.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Ça fait 5 ans que je fais ce métier. Ça fait 1 an et demi que je travaille au CAUE du Val-de-Marne.
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
Donc, le paysagiste, il travaille avec des matériaux de construction qui sont inertes, minérales, enfin le ciment, la pierre, le béton, etc. Mais il travaille aussi avec le vivant, la terre, le sol vivant, les végétaux, la végétation et l'eau. Donc il y avait cet aspect-là qui me plaisait bien. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que le métier de paysagiste, ça demande de l'imagination et de la créativité. En fait, on utilise le dessin pour représenter ce qui existe, pour le comprendre, et pour représenter aussi ce qui existera plus tard. Donc dans ces cas-là, ça demande un travail d'imagination. Donc l'objectif du paysagiste, c'est de ramener la nature en ville. Et c'est le troisième aspect qui me plaisait du métier.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le CAUE et sur quel type de projet travaillez-vous ?
Donc CAUE, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. On accompagne les porteurs de projets et on essaye de les conseiller pour que leurs projets d'architecture, d'urbanisme et d'environnement soient d'une bonne qualité. Et il y a aussi la sensibilisation et de la transmission en général. Ça peut se faire pareil pour toutes sortes de publics. Et l'objectif, c'est de sensibiliser, par exemple, à l'environnement.
Pouvez-vous nous parler du projet Cour Oasis mené dans notre école ?
Donc, le projet de la Cour Oasis dans votre école, c'est un partenariat entre le CAUE et la ville, et l'école, du coup. L'objectif, c'est de transformer la cour, désimperméabiliser, de planter des arbres pour rafraîchir l'atmosphère. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est la concertation et la co-conception. Donc, il y a eu 24 heures d'atelier dans les deux écoles, donc 48 heures en tout, que les enfants puissent donner leur avis sur le projet. Étant donné que vous êtes les usagers de la cour, c'est vous qui la connaissez le mieux, c'est vous qui êtes les plus à même d'expliquer ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire quelle utilité ça a pour vous, comment vous jouez dans la cour, quelles sont les règles, quels sont les espaces calmes, les espaces dynamiques. Et donc, ça s'est fait au travers d'outils comme la maquette. Et les enfants ont pu proposer des activités, des jeux, des différentes ambiances dans la cour au travers de leur maquette. Et tout ce travail-là, ensuite, ça a fait l'objet d'une exposition ouverte au public avec les parents d'élèves, les gens de la ville, mais du coup aussi les autres enfants. Et l'objectif, c'est que tout ça, ça remonte à la ville. Toutes les aspirations, les besoins ou les rêves que vous avez pour votre futur cours, l'objectif, c'était que ça revienne aux oreilles de la ville. Donc ça s'est fait sous la forme d'une note de recommandation qui a été donnée à la ville. Et ensuite, la ville fait son projet par rapport à tout ce qui a été dit pendant la concertation.
Alors, donc on va commencer l'interview pour ce reportage. C'est un reportage, donc les deux experts, Céline et Annabelle, qui vont nous raconter un peu leur travail en tant que éco-délégués. C'est ça, si je me trompe.
Bonjour, je m'appelle Soline et je suis dans la classe des CM1B.
Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis dans la classe des CM1-CM2.
Ok. Et donc, vous, vous avez participé à cette, à ce projet. Alors, ben, du coup, vous, vous avez travaillé comment, vous, les filles, pour aboutir à ce projet? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez dû faire?
Le projet Oasis. D'abord, au premier cours, on a été dans la cour. On s'est installé, on a regardé le sol, ce qu'on entendait, ce qu'on voyait. Oui, on avait fait des jeux aussi dans la cour pour voir ce qu'on faisait. En fait, un peu, on avait dit, par exemple, jouer à cache-cache et on devait se cacher. Et du coup, après, on disait que notre cour, elle n'était pas très bien pour le cache-cache, vu que ben, y avait pas énormément de cachettes. Et on a fait des jeux comme ça pour voir ce qu'on pouvait bien faire dans notre cours et ce qu'on pouvait qu'on avait du mal à faire dans notre cours.
Et après
On est parti faire une balade
au bord de la Seine.
Et ils nous ont dit de nous cacher dans les bois,
les mêmes trucs qu'on a fait dans la cour.
Dans la cour, mais on a fait les mêmes choses dans la cour, mais c'était plutôt dans la nature, etc.
Oui, donc c'était plus facile.
Au bout d'un moment, dans la cour, ils nous avaient demandé de nous allonger et d'entendre, de voir ce qu'on entendait, ce qu'on ressentait sur le sol. Et on a fait la même chose au bois et on a tous été d'accord pour dire que c'était plus agréable au bois.
Oui, et c'était différent. Et après, on a été dans la salle, on a fait des dessins de comment on voulait notre cour. Et après, on a fait des maquettes avec de l'argile. On avait un bloc d'argile. On devait faire dessus ce qu'on voulait comme cours, en fait, un peu.
Donc, après avoir fait ça, l'idée, c'était qu'ils reproduisent au mieux, en fait, ce que vous avez mis sur vos maquettes.
Oui. Oui, un peu, mais aussi, on a fait... C'était aussi pour voir ce que voulaient les élèves. On ne pouvait pas mettre toutes les maquettes en même temps dans la cour, vu qu'on était seulement par groupe de 4. Mais on pouvait voir d'éventuels... Par exemple, si tout le monde a mis de la pelouse sur sa maquette, mettre de la pelouse dessus.
Il avait dit que les travaux se feraient cet été, mais on n'est pas sûr de ce qu'on va faire.
Moi, je propose qu'on mette plus de poubelles dans chaque endroit de la cour, pour que la cour ait plus aménagée.
Et c'est vrai parce que... Et je trouve quand même, de mon point de vue, quand nous on arrivait, bah, quand je dis nous, les CM2, quand on arrivait en CP, je sais pas si vous vous rappelez, vous vous rappelez pas, il y avait plein de fleurs, etc.
Ah oui,
il y avait des fleurs, il y avait des arbres, sauf que entre temps les gens ils ont arraché les fleurs, ils ont pas pris soin de des plantes, parce que je sais pas s'ils savent que les plantes c'est très important pour nous. C'est pour, il y a de l'oxygène, ça rejette de l'oxygène et ça aspire le CO2. Donc je pense que c'est très important d'avoir de la végétalisation.
Alors dans le fond, il y a quand même une toute petite bande de terre qui était censée être végétalisée à la base quand l'école a été rendue, enfin quand le chantier de l'école a été terminé en 2015. Sauf que la terre, en fait, elle est tellement compacté qu'il n'y a rien qui a poussé. Et donc pour remplacer les plantes grimpantes éventuelles qui auraient poussé et qui auraient caché la vue des grilles, on a mis des bâches en plastique qui du coup rendent opaque la vue, mais qui empêchent aussi de la lumière de passer.
La radio des écoles d'Ivry.
Bien sûr, Radio Libertaire. Oh là 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 là, rien ne va plus, les enfants. Je suis fatiguée. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec Flo Descailloux qui rigole bien dans la régie. Et moi qui suis, qui va, voilà, il faut que mes neurones se mettent en place. Et nous allons aujourd'hui recevoir Émilie Barnett pour Debout comme une reine. C'est un roman, ça vient de paraître aux éditions Gallimard. Émilie Barnett, bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous entraînez en Irlande, nous allons voyager en Irlande, aux côtés d'une femme qui a eu une destinée assez tragique, c'est Sophie Toscan du Plantier. Qui est décédée, je crois, le 23 décembre 1996, donc ça fait loin, ça fait plus de 30...
Presque 30 ans, oui.
Presque 30 ans. À quelques pas de sa résidence de vacances en Irlande, et elle avait 39 ans. Donc c'est un fait divers, c'était la femme de Daniel Toscan du Plantier. Oui. Je dirais presque que c'est un fait divers digne d'un film.
Oui, on pourrait voir ça comme ça, et en effet, je pense que ça pourrait être faire complètement l'objet d'un film. Ça a en tout cas inspiré plusieurs documentaires, plusieurs émissions, et ça a fait déjà couler pas mal d'encre, notamment dans les médias, la presse.
Alors vous dites en introduction, ni portrait scrupuleusement fidèle, ni enquête exhaustive, Debout comme une reine est une tentative d'élucidation intime des circonstances d'un meurtre. En conséquence, le texte qui va suivre est une libre interprétation du fait divers nourri par les témoignages des proches. Une tentative d'élucidation intime. Alors, pourquoi d'abord ce livre, Émilie Barnett? Pourquoi un roman? Est-ce un roman enquête ou une enquête romanesque?
Alors,
un roman enquête.
En fait, c'est une enquête, hein, mais ce n'est pas une enquête à proprement parler, au sens où je ne cherche pas à résoudre un crime. J'en avais pas l'ambition ni les moyens. Pour cela, il aurait fallu, je pense, plonger dans cette histoire et ce dossier criminel pendant des années, ce qui a énormément d'archives. Il aurait fallu rencontrer beaucoup de monde, et je n'ai pas du tout cette ambition-là d'écrivain. En revanche, enquête, oui, parce que pour moi, il s'agissait plus d'enquêter sur une femme, et non pas, pourquoi elle avait été assassinée, parce que la raison est simple, elle est tombée sur un fou, très probablement sur ce fou qui était Yann Bailey, mais qu'est-ce qui l'a amené à quitter la France pour s'installer en Irlande, qu'est-ce qui a pu expliquer le fait qu'elle se laisse aussi approcher par cet homme, puisqu'ils avaient eu des relations, des conversations au préalable. Voilà, et comment cette femme s'est petit à petit aussi isolée et éloignée de sa vie parisienne. Donc c'était aussi entrer dans la psyché d'une femme, essayer de capter sa météo intérieure, comprendre ses affects, et puis aussi à travers ça comprendre un peu ce qui faisait que je m'identifiais aussi fortement à elle.
Alors c'est un peu comme Ruth Rendell. C'est-à-dire, vous faites Ruth Rendell, vous savez, l'analphabète, contrairement au roman policier traditionnel, elle montre comment survient ce qui va arriver avant la mort tragique d'un meurtre.
Oui.
En fait, elle, c'est un peu la genèse d'une mort annoncée.
Oui, c'est tout à fait ça.
Et vous dites d'ailleurs, alors en exergue, vous dites à ceux qui ne nous tuent pas, à mon père. Donc vous montrez un peu, parce qu'il y a tout ce qui aurait pu aussi se passer si elle n'avait pas été en Irlande ce jour-là, peut-être à ce moment-là.
Oui, tout l'arbitraire en fait.
Tout l'arbitraire de la destinée humaine.
Bien sûr.
Et puis, ce qui est très intéressant, Émilie Barnett, donc Sophie Toscan du Plantier, je crois qu'elle était productrice, c'est ça?
Elle produisait des documentaires, enfin, ça faisait peu de temps, mais depuis quelques années, elle produisait des documentaires pour la chaîne Arte.
Ouais.
Donc elle en avait produit 3 ou 4.
Alors, elle écrivait aussi, et donc vous nous restituez aussi par fragments, par bribes, certains de ses écrits.